De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parler, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux, nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, alors on a eu l'occasion de voir Beaux-parents, comédie avec Benabar, mais on a décliné, on a manqué Le Dain de Quentin Dupieux, présenté à Cannes. Mais on a quand même pu voir quelques bons films, et pas toi Marine.
Non, moi j'ai pas eu trop de chance en fait cette semaine. J'ai vu Nevada de Laure de Clermont-Tonnerre et j'ai vu un autre film qui s'appelle Lune de Miel, un film français de Élise Hötzenberg. Et dans les deux cas, c'était pas de grande réussite.
Et putain Manu, c'est mitigé.
Oui, bah, un bon film, qui est d'ailleurs un film d'animation, Buñuel après l'âge d'or, un film de Salvador Simo, et puis Greta de Neil Jordan et La Porte sans clé.
Et puis moi, eh bien, j'ai vu Anna un jour, film de Sofia Zilagi. Voilà, c'est un film qui a été présenté à Cannes alors, il y a déjà un an. Ça, c'est plutôt un bon film pour moi. Et puis, on jouera aussi aujourd'hui avec un blind test spécial Alain Delon. Il en était question lors de la dernière émission. J'ai décidé de sortir ce blind test. Ce sera 5 extraits à écouter de sa filmographie plutôt riche durant les années 60 et 70, voire même début 80. Ainsi débute Cinérama avec... Mathias Schoenertz.
À quoi sommes-nous confrontés?
Cinérama.
C'est quoi, ça une blague ou quoi?
Ça fait longtemps que vous êtes incarcéré?
Ça fait 12 ans.
Et on commence donc avec Nevada de Laure de Clermont-Tonnerre. Alors, dans certains endroits des États-Unis, eh bien, le nombre de chevaux sauvages connaît une telle expansion que le gouvernement est contraint d'en capturer un certain nombre afin de réduire leur reproduction. Et dans certains cas, eh bien, ces chevaux sont envoyés dans des centres pénitentiaires où les prisonniers eh bien, peuvent les dresser pour ensuite qu'ils soient vendus aux enchères. Pas les prisonniers, les chevaux sauvages, bien sûr. Mathias Schoenertz incarne ici Roman, un prisonnier violent incarcéré dans une prison en plein désert du Nevada, toujours en conflit avec sa fille, renfermé sur lui-même et qui semble incapable de s'ouvrir aux autres. Il est amené, un peu malgré lui, à intégrer un programme au cours duquel il va devoir dresser des mustangs. Et notamment l'un d'entre eux, plus sauvage que les autres. Et alors là, on se dit, mais n'y aurait-il pas un parallèle à établir entre ce cheval fougueux et ce prisonnier imprévisible?
Que ça vous plaise ou non, vous allez réintégrer la détention générale.
Je suis pas doué avec les autres.
Le but du programme, c'est d'apprendre à dresser les chevaux sauvages. Et au bout du compte, notre réhabilitation.
Notre objectif est de ressentir de l'empathie.
Il y en a, on peut les débrouiller.
C'est chiant !
Les autres, il n'y a rien à en tirer.
Alors Laure de Clermont-Tonnerre, la réalisatrice donc qui est française, hein, comme son nom l'indique, a été intriguée par des programmes mis en place dans certaines prisons en France, des programmes de thérapie qui consistaient à confier à des détenus des petits animaux voilà, dont ils devaient s'occuper. Et ce gardiennage eh bien, avait des vertus thérapeutiques. Il permettait aux détenus de donner un sens à leur routine quotidienne. Et c'est lorsqu'elle a découvert une prison dans le Nevada qui poussait la thérapie animale à son paroxysme en fait en transformant carrément les détenus en dresseurs de chevaux qu'elle a compris, donc elle tenait là eh bien, le sujet de son film. La première version de Nevada a ensuite été montrée au festival de Sundance et le projet a alors bénéficié du parrainage de Robert Redford qui s'y connaît en murmure à l'oreille des chevaux. Alors Nevada, voilà, moi ce qui m'embête un petit peu c'est que ce n'est pas mauvais. C'est juste un peu vide. On a ce sujet de base, cette prison donc unique au monde, hein, qui existe vraiment, où on dresse des mustangs. Ce sujet est passionnant, mais le scénario qui va ensuite être brodé autour de cela eh bien, reste extrêmement prévisible. L'histoire manque un peu d'enjeu. C'est compliqué de sortir des poncifs du drame carcéral. On a donc droit au trafic en tout genre, aux luttes de pouvoir entre détenus, aux visites avec la famille qui se passent mal, à la rédemption, au pardon. Tout ça a déjà été vu et revu. Il n'y a rien vraiment de nouveau dans le traitement de ces clichés. Alors heureusement, il reste de très belles images. Les décors sont incroyables, la lumière est magnifique, il y a ce contraste perpétuel entre les espaces clos, restreints de la prison et les très grands espaces extérieurs, très lumineux. Cette opposition est très bien traitée, la photographie est superbe. Quant à Mathias Schoenertz, eh bien, que j'apprécie beaucoup, hein, là pour le coup, Il fait, j'ai envie de dire, eh bien, ce qu'il sait faire de mieux, mais également ce qu'on a trop souvent vu faire. C'est-à-dire, attention, cette phrase va être très longue, l'homme mystérieux peint d'une certaine violence contenue, dont les yeux bleus perçants et fréquemment embués par les larmes qu'il retient trahissent une grande et belle sensibilité qui va finir par se révéler. Je l'ai un peu trop souvent vu faire ça. Mathias, il est temps de changer. Voilà, donc Nevada, moi je pense que c'est dispensable, ou alors peut-être juste pour le plaisir des yeux.
Bon, effectivement, il y a une analogie. Moi, j'ai juste vu la bande-annonce, mais entre la carrure de Mathias Schoenaerts
et
le cheval, il y a quelque chose
qui
s'instaure. Et puis, cette opposition entre western et film de prison, parce que c'est ce qui est assez inhabituel. Voilà. Donc, ça, c'était bien un film plutôt mitigé, qui n'est pas forcément mauvais, hein, voilà, si on ajoute la petite romance.
Un petit peu plat.
Oui, un petit peu plat. Et on passe maintenant à Anna, un jour, 24 heures de la vie d'une mère de famille qui se demande si elle aura le temps pour sauver son couple.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Plus d'un an après son passage à Cannes, le film de la Hongroise Sofia Szilagyi sort enfin sur les écrans. Une attente d'autant plus étrange que ce film, présenté à la semaine de la critique, a reçu le prix Fipreski, soit le prix de la critique internationale. C'est sans doute sa forme qui a plu aux journalistes du jury. Le parti pris du film est de condenser en un peu plus d'une journée le quotidien d'Anna. Mais attention, ce quotidien avec mari et enfant n'est pas pris à n'importe quel moment. Il intervient alors à la quarantaine, quand Anna apprend qu'une amie à eux a jeté son dévolu sur son mari et qu'ils ont ainsi fricoté par texto. Alors, c'est ce qui semble, c'est raconté. Le doute s'immisce dans le couple qui n'a pas vraiment le temps de se causer, pas plus l'occasion de se lancer dans une scène de ménage avec des sous-entendus, des insultes ou des bris d'assiettes. Anna et Savoch se connaissent depuis plus de 10 ans, à en juger par l'âge des enfants. Et justement, il y a les enfants qui, dans une première séquence troublante, mettent en contraste alors l'agitation des enfants du foyer, avec, ils sont trois, avec leurs cris, leurs refus, leurs négociations et leurs rires, et la présence de l'élément qui pourrait disloquer cette famille, soit la probable future maîtresse qui attend un peu le pied dans la porte. Alors la trame du film, s'il y en a une, eh bien, est de savoir comment Anna va pouvoir gérer cette situation, sachant qu'elle a évidemment plein d'autres choses à gérer. Alors il y a les enfants, donc, avec l'école, les activités extrascolaires, le sac de sport oublié, ou encore la fièvre avec l'épisode de la pharmacie à trouver en pleine nuit. Mais il y a aussi la pression professionnelle. Professeur d'italien, sous on ne sait quel régime, eh bien, on lui propose des horaires incompatibles avec la vie de famille, forcément. Mais on sait que la situation du foyer, eh bien, est financièrement compliquée et tout ce qui rentre ressort. Et quand bien même, eh bien, le couple paie ce qu'il faut, il y a toujours une complication administrative qui vient ajouter du temps au temps. La notion de temps est évidemment centrale dans ce film puisqu'on suit notre héroïne dans sa journée compliquée. Alors, elle est certes compliquée, mais elle a l'air d'être banale finalement, hein. Alors, la réalisatrice parvient également à en montrer la relativité de ce temps grâce à l'aîné des enfants qui nous fait un résumé d'Interstellar à hauteur d'enfant. Alors, selon les situations dans l'espace, eh bien, on ne veillit pas de la même manière, nous raconte plutôt à nous, spectateurs, l'enfant que les parents finissent par ne plus trop écouter, préférant demander à l'un de manger sa tartine, à l'autre d'aller se brosser les dents. Alors, si le personnage d'Anna est bien écrit, celui du fils aîné est bien plus réussi et pourrait faire l'objet d'un long métrage. Les plus belles séquences sont celles où cet enfant exprime son potentiel d'intelligence, de sensibilité et de jugement sur ce qu'il vit et comment il l'exprime avec la simplicité d'un enfant. Il y a le syndrome du sac qui l'oublie notamment. Alors, elle lui fait la morale, mais pourquoi tu oublies tout le sac? Et lui, il dit simplement, parfois, on peut se rappeler des choses et parfois on peut ne pas s'en rappeler. Enfin,
c'est
voilà.
Profond.
Alors je ne sais pas si c'est profond, mais il y a une espèce de candeur et de justesse dans ce qu'il raconte, cet enfant. Alors dans cette exposition du quotidien, il y a la ville, le bruit, les klaxons, les automobilistes énervés, les autres qu'il faut se coltiner, ceux à qui on doit faire des courbettes, ceux à qui on peut se permettre de demander une petite attention, comme son mari. Et Anna traverse cette journée avec habitude et inquiétude. Elle se retrouve comme face à un mur, ce que surligne une séquence en apparence anodine. Pour accompagner ce désordre, dans la vie quotidienne de son personnage, la réalisatrice a recours à une caméra épaule qui a maintes fois l'occasion de bouger. C'est tout de même un peu trop voyant. Mais le plus gros bémol est la construction du personnage masculin, soit le mari, qui est montré comme lâche et infidèle. Cela fait un peu vieux cliché sur la vie de couple. Toutefois, elle ne juge pas ses personnages, la réalisatrice. Et elle n'insiste pas sur le mari qui est dans le cadre, mais sans plus. Mais sa psychologie est quand même trop balisée. Reste l'excellent personnage donc, de l'aîné des enfants pour contrebalancer cette figure masculine défaillante. Anna un jour est un film rude, sec, un portrait de femme auquel le spectateur ou évidemment la spectatrice vont pouvoir s'identifier, parce que le propos est universel aussi. Il est amusant de noter que la réalisatrice a décidé de se faire ce film alors après avoir entendu une amie, mère de famille, lui raconter sa journée par fragments de 10 minutes. La réalisatrice hongroise s'est dit qu'elle pouvait en tirer une histoire et offrir donc un moment de cinéma.
Oh, the gates of your shop. Boy, who does my teacher to have it set to me? Hey, you all go to see the world of shop. When he got my belly, stand up, smash me, give me the chaise. Marco!
Alors évidemment, on a l'impression que c'est un gros tube hongrois, hein, ce rock alternatif, mais bah, on voit que ça dans les films, hein, ça n'existe pas dans la réalité, il n'y a jamais de morceaux comme ça qui arrivent en tête des ventes. Anna, un jour, c'est un film à voir, et il est sur les écrans depuis le 19 juin. C'est pas le cas de Greta, qui était déjà dans les salles auparavant, et Manu, eh bien, tu vas nous en parler.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Elle me fait vraiment flipper.
Ouais, tu m'étonnes.
J'ai dû débrancher le téléphone.
Plus ils sont fous, plus ils s'accrochent.
Pas si facile de se débarrasser de Greta.
Pas très flippant, hein, moi, je vous le dis tout de suite, hein. Alors, en toute légitimité, on pourrait se demander ce que Chloé Grace Moretz et Isabelle Huppert sont allées faire dans cette galère. D'autant que les deux actrices, ben, issues de générations différentes, ne sont pas à plaindre, enfin, elles n'ont pas à courir après les impôts et ne sont ni en pénurie de rôles passionnants, surtout en ce qui concerne Huppert, bon, sans doute peut-être un petit peu trop prolifique ces derniers temps, hein. Alors, un moment d'égarement, car comment croire une seconde à un synopsis aussi ridicule et vieillot, à peine digne de la pire trame d'un roman de Mary Gaines Clark ? La jeune Frances trouve un sac à main égaré dans une ligne de métro à New York. Elle ramène naturellement à sa propriétaire. C'est ainsi qu'elle fait la connaissance de Greta, veuve solitaire étrange et excentrique. Toutes deux fragilisées par des événements récents, en l'occurrence la mort de la mère de Frances. Elles deviennent amies, instaurant alors une relation de confiance pas si loin de celle liant une mère à sa fille. Mais Greta se révèle possessive et rapidement inquiétante. Frances commence à avoir des doutes sur la personnalité de sa nouvelle amie, dont le comportement devient de plus en plus ambigu. Quant au spectateur, il n'en a aucun au bout de 5 minutes, convaincu d'avoir affaire à l'un des plus effroyables nanars du moment. Dès les premiers plans, rien ne fonctionne, ni l'interprétation en roue libre des comédiennes, surtout Huppert, qui est exécrable, ni le scénario totalement prévisible et ridicule, et ne parlons pas des dialogues assez lamentables aussi.
Je mérite mieux que ça!
Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée.
Tu ne peux pas me faire ça. Nous faire
ça. Que vous êtes une enfant.
Non, c'est toi l'enfant qui a besoin d'amour, pas moi. Tu as besoin d'une mère qui te sert fort, tu as perdu ta mère et tu as peur d'aimer. On le sait toutes les deux.
Je vous interdis de me parler de ma mère.
Tu ne comprends pas, chérie. Il fallait qu'elle meure pour qu'on se rencontre.
Mais vous êtes complètement malade.
Tu refuses de l'accepter, c'est tout. Regardez-la, elle est submergée par le chagrin. Elle est morte, Frances.
Madame.
Il faut que tu l'acceptes. Tu dois continuer à vivre. Laissez-moi tranquille. Elle est morte. Laissez-moi. Lâchez-moi, non. Lâchez-moi. Lâchez-moi.
Ne vous fiez pas à la bande-annonce hystérique, c'est beaucoup plus mou que ça. Hein. Mais revenons à la question initiale. Alors pourquoi deux talentueuses comédiennes se sont fourvoyées dans ce thriller gériatrique où le summum du suspense consiste quand même à aligner dans un placard des sacs à main identiques, reprenant les pires ficelles narratives des thrillers à la mode des années 80, notamment à double tranchant, où le héros découvrait une machine à écrire. Enfin bon, bref. Le côté torride en moins. Hein. Déjà, vous êtes prévenus, pas la moindre allusion sexuelle explicite ou implicite, pas la moindre trace de sang non plus. L'hypothèse la plus probable tient à la personnalité du réalisateur, Neil Jordan, qui n'est tout de même pas rien dans le paysage cinématographique contemporain. Alors si j'ai daigné visionner le film, c'est bien pour le cinéaste irlandais qui fit des débuts fracassants au début des années 80 avec au moins un chef-d'œuvre, inspiré d'ailleurs des contes de Charles Perrault, La Compagnie des Loups. Alors, il signa ensuite de remarquables films dans son pays, comme Mona Lisa, The Crying Game ou Butcher Boy. Son exil aux États-Unis n'est pas si déshonorant, puisqu'il est quand même le réalisateur d'Entretien avec un vampire. Et puis, il a aussi réalisé deux autres beaux films fantastiques, Byzantium et Ondine. Alors, Neil Jordan, c'est l'ex-protégé de John Boorman, hein, sans être un auteur, on va dire au sens strict, est un excellent metteur en scène, capable d'investir tous les genres avec une facilité déconcertante. Tout le contraire de Greta, qui donne l'impression de n'avoir personne aux commandes, si ce n'est un assistant de troisième équipe tournant en roue libre. Baignant néanmoins dans une lumière soignée, hein, ce polar pseudo-hitchcockien enfile les champs contre champs comme seul vestige d'une grammaire cinétique appauvrie jusqu'à l'épuisement. Alors cette indigence à tous les niveaux finit par provoquer un ennui absolu. Et surtout, je comprends pas, quoi. Je comprends pas ce qui est arrivé à Neil Jordan. Alors c'est peut-être la faute à un scénario vraiment lamentable qui est écrit par Ray Wright, qui avait écrit déjà commis, on dit, le remake de Cairo de Kurosawa, Pulse, qui est sorti discrètement en salle. Donc je pense que c'est une des raisons quand même bien foireuses du film. Son scénario est lamentable.
Donc si vous voulez voir... Oui,
je
Marie.
Précise quand même, alors vraiment ça je ne comprends pas, mais l'accent de Isabelle Huppert, c'est une catastrophe, mais vraiment en fait. Et en effet, comme tu l'as dit, je crois que je l'ai rarement vu aussi mal joué. Donc c'est
elle n'est pas digérée non plus. Enfin, c'est nous qui n'avons pas digéré, elle n'est pas dirigée du tout.
Non, pas du tout.
Bon, n'en jetez plus. C'est Greta, donc si vous voulez voir du Neil Jordan, eh bien plongez-vous dans sa filmographie plutôt. Allez, blind test de cette émission, c'est le jeu.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors nous, on n'a pas de palme à remettre, mais donc on va faire un jeu blind test avec Alain Delon. 5 extraits de films à reconnaître. C'est à vous de jouer et puis à nous aussi de jouer ici dans le studio.
Ah, enfin je te retrouve. Tu avais disparu.
Nous sommes réfugiés ici pour nous arranger un peu. Toi, d'où viens-tu ? Je me suis retournée, tu n'étais plus là.
Je suis allé écouter un moment ce que disait le colonel Pallavicino. Ce n'est pas un génie, c'est d'accord, mais ce qu'il dit est parfaitement valable. C'est vrai, le nouveau royaume a besoin d'ordre, de l'égalité et d'autorité. Il faut briser dès leur naissance toutes les tentatives de retour à l'aventure et au désordre. Même si cela implique des mesures sévères et parfois douloureuses. Comme l'exécution de ces exaltés qui ont fui l'armée pour rejoindre Garibaldi.
Alors c'est trouvé, Manu.
Le Guépard de Visconti.
Oui, film de 63 qui a reçu la Palme d'Or avec... c'est surtout Burt Lancaster qui a le plus gros rôle quand même, il faut le dire. Et puis il y avait aussi Claudia Cardinal, plus de 3 600 000 spectateurs en France, tout de même. Deuxième extrait.
Pourquoi avez-vous dit que vous ne me reconnaissiez pas ?
Pourquoi avez-vous tué Martin ?
On devait me payer pour ça.
Que vous avait-il fait ?
Rien du tout. Je ne le connaissais pas. La première et la dernière fois que je l'ai rencontré, c'était il y a 24 heures.
Quelle sorte d'homme êtes-vous ?
Alors, quelle sorte d'homme il est, on le saura en regardant...
Le Samouraï de Melville.
Oui. Film de 67, qui a inspiré forcément Jim Jarmusch pour Ghost Dog.
Et The Killer de John Woo.
Oui. Allez, troisième extrait.
J'ai pas envie de me lever. Il y a des jours qui ne me réussissent pas aujourd'hui, par exemple. Passer à demain et qu'on n'en parle plus.
Eh ben, reste couché. Tu veux que j'étire les rideaux ?
J'ai trouvé Harry bien tendre avec toi hier soir.
Il est toujours tendre avec les femmes. C'est agréable, tu sais. Et sa fille, à propos.
Quoi, sa fille ?
Oh, rien.
Comment tu la trouves ?
C'est à toi qu'il faudrait demander ça.
Elle est curieuse.
Si je comprends bien, je fais ma valise et je m'en vais.
Attends un peu quand même.
Bon, ça a été trouvé. Si on reconnaît les voix...
C'était Romé Schneider.
Oui.
Oui, c'était La Piscine.
Oui, film de Jacques Deray, sorti en 69, un peu plus de 2 300 000 entrées en France. Quatrième extrait.
Moi, si j'avais pu, je serais resté là-bas.
Pourquoi ? Tu n'aimes pas Milan ?
Si, mais... C'est chez nous, là-bas. On devrait avoir les moyens de mieux vivre. Là où nous sommes nés et où nous avons grandi. Je pense que si je me sens mal à l'aise dans une grande ville... C'est justement parce que je n'y suis pas né, je n'y ai pas été élevé. Je dis moi, mais je veux dire aussi mes parents, mes grands-parents, ma famille. Il y a des gens qui peuvent se mettre tout de suite comme ça au pas des autres. Et qui arrivent immédiatement à avoir les mêmes désirs que les autres. Moi pas.
Ça a été trouvé, évidemment.
Encore un Visconti, hein. Rocco et ses frères.
Ça s'est sorti en 60 avec, cette fois-ci, Annie Girardot. Dernier extrait.
Personne en vue. Ni les flics qui font semblant de m'avoir oublié, ni les charognards qui se méfient des flics. Mais je sais qu'ils sont tous là. J'ai 1000 francs en poche, des vêtements vieux de 10 ans, et quelque chose me dit qu'il faut rester calme. Et laisser venir.
C'est l'intro d'un film, de son film.
De son film qu'il a réalisé, il en a réalisé deux d'ailleurs.
Oui, hein, trois c'est... même, je crois.
En tout cas, il y a Le Battant et l'autre, c'était Pour la peau d'un flic.
Et là, c'est Le Battant.
C'est Le Battant.
Oui. Film de 83. Ainsi s'achève ce blind test. Alors, voit-on les clichés rebattus sur l'alcoolisme polonais et des gags scatologiques dans Lune de miel? Marine, tu vas nous en parler.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Français?
Oui, on est français. Oui. We are French.
Mm-hmm. Ah, from where?
From Paris.
Paris. Właśnie moja koleżanka niedawno była w Paryżu i właśnie wróciła i mówiła, że było tak super.
Anna et Adam, respectivement interprétés par Judith Chemla et Arthur Igual, sont un couple de trentenaires parisiens parfaitement insupportables, hein, on peut le préciser, qui ont chacun des origines juives polonaises. Alors si Adam est au clair avec son passé, Anna, elle, souffre de ne rien savoir, notamment au sujet de sa grand-mère, et décide de partir avec son mari en Pologne à l'occasion d'une commémoration. Anna est très enthousiaste à l'idée de retrouver ses racines, mais elle va également comprendre que la Pologne est un pays hostile dont elle ne connaît finalement pas grand-chose, et évidemment, eh bien, rien ne va se passer comme prévu.
Je me sens super polonaise. J'ai des sensations qui remontent.
Mais attends, t'as quoi comme sensation parce que t'es jamais venue ici?
Je sais pas, c'est les sensations de mes ancêtres. Tu sais, c'est un peu comme les Bretons quand ils retournent en Bretagne, ou les Lorrains quand ils vont en Lorraine, ou même les Chatounais à Chatou. Tout est super.
Attends, qu'est-ce qui se passe? Là, on est où?
C'est parce que je suis une pauvre conne et qu'on est exactement au fin fond du cul de la Pologne.
Tu sais quoi, Anna? Souvent, je me dis que ça serait plus simple si t'étais pas juive.
J'ai épousé un juif antisémite.
Ouais, et puis moi, j'ai épousé Rabbi Jacob.
Arrête cette bagnole.
Alors, cette lune de miel, hein?
Tu sais, Clément, c'est pas vraiment une lune de miel. Hein. L'anniversaire d'une extermination, c'est ce qui donne le plus envie de mettre sa culotte sur la tête.
Nazdrovie. Nazdrovie. Ganbei.
Pardon. No.
Et oui, ça rote et du coup, c'est rigolo. Bon, alors, difficile hein, de faire plus convenu que cette comédie sans aucun intérêt. Hein. En fait, c'est le genre de film qu'on a vu 15 fois et qui ici, eh bien, pour le coup, alors cumule deux sous-genres de la comédie française. D'un côté, la comédie de vacances, vous savez, celle dans laquelle un couple part en voyage et rien ne se passe comme prévu. Alors, dans 99% des cas, histoire de mettre un peu de piment dans l'intrigue des comédies de vacances, le personnage du mec est forcément cool, il ne se prend pas la tête, alors que sa copine est forcément stressée, maniaque, névrosée. Et c'est exactement l'antagonisme qu'on a ici. Et puis alors, Lune de miel peut aussi s'apparenter à cet autre sous-genre de la comédie française, qui est ce que j'appellerais la comédie du retour aux sources. Comédie qui met le plus souvent en scène des personnages appartenant à une communauté et qui vont devoir revenir à leurs racines, plus ou moins contre leur gré, et finalement trouver la paix intérieure après moult péripéties exotiques. Alors ici, du coup, le film cumule ces deux clichés de la comédie, sauf que premièrement, ça n'est pas drôle, on s'ennuie ferme. Et deuxièmement, bah, la Pologne, c'est pas très cinégénique, hein, ce n'est pas la Thaïlande. Et ce qui est surtout très dommage dans le film, c'est ce mauvais emploi, si je puis dire, qui a été fait de la comédienne Judith Chemla, qu'on avait découverte dans Camille Redouble, qui y avait un petit rôle dans lequel elle avait fait forte impression. Elle avait d'ailleurs été nommée pour le César de la Révélation, et puis elle a ensuite été vue dans divers seconds rôles, avant d'interpréter l'héroïne dans l'adaptation du livre de Maupassant, Une vie, par Stéphane Brisé, qui, on ne le sait que trop peu, ne fait pas que des drames sociaux. Et c'est vraiment dommage ici, voilà, qu'elle en soit réduite à incarner un cliché comme ça de femme hystérique, même s'il faut lui reconnaître un certain talent hein, pour animer convenablement les scènes de ménage. Alors on ressent évidemment, oui, toute la dimension autobiographique du film hein, qui a été réalisé par Elise Hotzenberg et qui parle en fait un peu de sa propre histoire. Mais si parler de ce qu'on connaît suffisait à faire un bon film, hein, ça saurait. D'autant qu'ici, la réalisatrice ne parvient pas à entrer dans la comédie de façon frontale. Sa réalisation n'a pas le sens du rythme, ça manque de tempo comique. Et puis, je le redirai à chaque fois, mais je continuerai à le redire. Arrêtez de faire des blagues sur les Français qui ne savent pas parler anglais et qui parlent franglais. Arrêtez de faire ça. À chaque comédie où des Français partent dans un autre pays, on y a droit. Mmh. Mais ça n'a jamais été drôle, en fait. Mmh. Jamais. Depuis De Funès, ça n'a jamais été drôle. Pourquoi?
Ah, voilà. Ça l'a été le premier film de Funès.
Voilà, après, voilà, il y a 50 ans.
Merci. Allez, on passe maintenant sans doute au film, le meilleur film de toute cette émission. On est deux à l'avoir vu, Manu, mais c'est toi qui vas en parler parce que tu connais très bien la filmographie et la vie de Buñuel.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Alors pour les moins cinéphiles et les plus jeunes d'entre vous, hein, Buñuel après l'âge d'or de Salvador Simo, adaptation de la BD de Fermín Solís, hein, Buñuel dans le labyrinthe des tortues, alors on n'évoque nullement la période de gloire et de créativité de l'espagnol, mais plus simplement bah, le film l'âge d'or hein, qui fit scandale à sa sortie en 1930 à Paris. Alors suite à l'échec public et critique de ce manifeste poétique et surréaliste, au moins aussi génial que Chien andalou, Luis Buñuel se retrouve déprimé et ruiné, mais la chance va lui sourire. Son ami Ramón Acín, sculpteur espagnol anarchiste, il gagne au loto et décide de produire le prochain film du cinéaste, Terre sans pain,
court-métrage. Parce qu'il lui avait promis aussi. Hein. Il lui avait promis.
Il lui avait promis, oui. Ouais. Court-métrage, en fait, un court-métrage de 27 minutes retrouvant foi en son incroyable talent. Alors, tourné dans la région montagneuse et aride à l'ouest de l'Espagne, Las Hurdes, c'est d'ailleurs le titre original, hein, lieu constitué de nombreux hameaux touchés par une pauvreté extrême et des conditions de vie primitives, Terre sans pain est à l'origine un documentaire frontal, témoignage brut et sans concession de la vie quotidienne des paysans qui n'ont ni pain, ni électricité, ni agriculture. Alors, le réalisateur s'éloigne a priori de ses aspirations surréalistes de ses débuts, a priori car il injecte une poésie morbide en filmant la misère humaine. Cette expérience unique va considérablement bouleverser la manière dont l'auteur de Tristana va concevoir le cinéma à l'avenir, articulant sa démesure artistique, ses délires graphiques, avec une narration plus structurée et un engagement politique et social prégnant. En ce sens, Terre sans pain annonce le premier chef-d'œuvre du cinéaste, hein, Los Olivados, réalisé 18 ans plus tard au Mexique, sa terre d'exil. Buñuel, après l'âge d'or, hein, s'avère une tentative originale, hein, par le biais du cinéma d'animation, de dresser le portrait distancié d'un cinéaste en activité, à la fois arrogant et humaniste, provocateur et séduisant. Ce projet singulier prend la forme d'un making-of fantasmé, mais fort bien documenté. On observe un Buñuel filmant une population affamée, constamment tiraillée entre ses obsessions récurrentes et le fait de mener à bien une commande, au point de s'arranger parfois avec la réalité, notamment lorsqu'il tue lui-même une chèvre censée dévaler une falaise. Ses obsessions sont judicieusement matérialisées à l'écran par une succession de rêves oniriques, nous immergeant furtivement au cœur de son enfance et gratinant au passage Salvatore Dali, avec qui il ne s'est jamais très très bien entendu en fait. Hein.
Mais avec qui il avait fait...
Avec qui il a fait L'âge d'or et puis Chez Andalou. Hein. Alors concernant ce dernier, il y a d'ailleurs un passage très émouvant où Buñuel s'excuse de son comportement auprès de Ramón en lui disant simplement pardon. Et d'ailleurs Ramón, surpris, lui dit qu'il ne l'avait jamais entendu s'excuser, ce à quoi Buñuel répond c'est un mot horrible de dire pardon. Et ajoute, on peut scandaliser le public, mais pas emmerder ses amis, ça je le laisse à Dali. Mmh. Voilà, c'est tout est dit. Alors Buñuel sort son film en 1936, hein, au moment où la guerre civile éclate le 18 juillet en Espagne. Pour la petite histoire, Ramón Acib, connu pour ses prises de position anarchistes, fut fusillé par l'armée franquiste le 6 août, suivi de sa femme quelques jours plus tard. Son nom fut retiré de l'affiche du film, qui sortit néanmoins... peu de temps après. Alors en 1960, Buñuel ressort son film et rétablit au générique le nom de Ramón Acib. Alors à la fois pédagogique et sensible, le film peut plaire aussi bien aux cinéphiles qu'aux novices. Intercalant judicieusement des extraits de Terre sans pain, Buñuel après l'âge d'or, soutenu par la fluidité de l'animation dans un style très ligne claire, permet de saisir un instant clé du parcours artistique d'un des plus grands cinéastes du monde.
Et donc, ça donne très envie d'ailleurs, si on n'a pas vu le court-métrage.
Il faut voir Terre sans pain. Hein. En plus,
peut le voir après, je pense. Ça donne
on peut
envie,
le voir après, cas, mais je pense que c'est quelque chose qui est disponible sur YouTube. C'est un petit film très court, en fait. Hein.
En tout cas, donc, film d'animation très réussi avec un réalisateur qui a travaillé pour Disney. On fait très vite sur un film que tu n'as pas du tout aimé, c'est Portes sans clé.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Mais pourquoi il n'y a pas de porte? Mais pourquoi il n'y a pas de porte?
Ça, c'est le radiateur.
Alors oui, bon, pourquoi il n'y a pas de porte? Point de départ curieux qui pourrait être ancré un peu dans une forme de surréalisme. Alors une femme possède un appartement et héberge des amis à qui elle ne confie pas la clé. Sa fenêtre donne sur un champ de migrants entouré de grilles. Un jour, ce camp disparaît. Pendant ce temps, d'autres gens s'installent dans son habitation sans avoir été spécialement invités. Lors d'un tel dispositif, on imagine justement ce que Buñuel aurait pu en faire. Un film style L'Ange Exterminateur, mais bon, c'est pas vraiment ça. Dès l'ouverture, ce premier long agace par son écriture absconse. La plus mauvaise idée, mais c'est pas la seule, de la réalisatrice Pascal Baudet, est de s'attribuer le rôle principal, celui de l'occupante des lieux. Alors, même si l'autodirection d'acteur se construit autour d'un sous-jeu volontaire, la performance de l'actrice atteint des sommets de ridicule et d'énervement pour le spectateur. Alors, Pascal Baudet tente de faire fusionner l'univers de Godard et de Bresson. De ce dernier, elle tente de théoriser une approche du cinéma en redéfinissant des espaces entre portes fermées et portes ouvertes, avec tout ce que ça peut susciter de métaphores et de messages un peu cryptés. Les personnages passent d'ailleurs leur temps à rentrer et sortir du cadre comme bon leur semble, et on ne comprend pas grand-chose. Hein. Donc, c'est vraiment un film, je dirais un objet hautain, qui n'a pas vraiment d'intérêt. Le côté godardien tient dans les dialogues, le côté incompréhensible de l'ensemble. Enfin, c'est un film que j'ai trouvé raté. Alors, peut-être que je suis passé à côté parce que j'ai lu des critiques assez dithyrambiques dans Télérama et dans Libération.
Oui, mais ça arrive souvent. Hein. Qu'une partie de la presse défende un film et que l'autre...
À ce point, non, parce que moi, j'aime ce type de cinéma complètement fauché qui pourrait faire amateur. Mais là, je trouve que ça passe pas par quand même une certaine prétention de l'objet.
Et puis, en même temps, j'ai envie de dire, l'avis de Télérama par rapport à celui de Cinérama ne vaut pas grand-chose. Hein.
Ce sera la conclusion de cette émission.
Vous avez fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui. Oh,
c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Non, vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
La semaine prochaine, eh bien, retour à Cannes, Marine.
Oui,
pour
moi,
toi.
Je vais vous parler d'un film qui m'a beaucoup enthousiasmé, c'est La femme de mon frère, le premier film de Monia Chokri.
Et je vous parlerai de Chokri, la poupée qui tue.
Eh oui. Wow. La semaine prochaine.